Bonjour à toutes et tous, je vous propose qu'on démarre. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde sur le reporting extra-financier, comment en faire d'une contrainte, une opportunité auprès de vos banques. Alors avant de démarrer, quelques mots sur la banque de financement et d'investissement de la Banque Postale qui organise cette table ronde. La Banque Postale, c'est la 11e banque de la zone euro. Nous sommes une filiale du groupe La Poste, qui est lui-même détenu par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. La Banque Postale, c'est un modèle d'affaires qui est diversifié, avec 20 millions de clients, personnes physiques et professionnelles, des clients patrimoniaux, avec Louvre, banque privée, et enfin, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, une banque de financement et d'investissement qui regroupe en son sein des clients entreprises, des PME, des ETI, des grandes entreprises, mais également des acteurs du secteur public local et de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes le premier prêteur des collectivités locales et des hôpitaux publics depuis 2015, et nous accompagnons environ la moitié des entreprises du CAC et du SBF 120, et plus de 10 000 PME et ETI en Ile-de-France et dans les territoires. Alors quand on dit accompagner, notre job c'est quoi? C'est de financer les entreprises dans leurs besoins d'exploitation, dans leurs besoins d'équipement, et puis dans des opérations haut de bilan, dans des opérations structurées, à la fois dans des formats bancaires et dans des formats obligataires, et puis également de couvrir les risques de taux, les risques de change, et bien sûr d'assurer le traitement quotidien des opérations de nos clients au travers toutes les dimensions du cash management. Alors la Banque Postale tire également sa singularité de son positionnement très fort en matière de finances durables. Au-delà de nos classements internationaux, nous sommes en mesure de proposer des solutions qui sont robustes et dont on peut véritablement mesurer l'impact. Et je dirais que c'est ce dialogue régulier avec les entreprises qui nous amène aujourd'hui à nous poser la question de ce reporting extra-financier qui fait couler beaucoup d'encre, qui par bon nombre d'entre nous peut être vécu comme une forme de contrainte, mais on va le voir qui recèle un certain nombre d'opportunités, des opportunités business, des opportunités financières, des opportunités stratégiques. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette table ronde Rosaine Le Sommer, qui est directrice de la performance extra-financière de la banque, Frédéric Vigier, qui est directeur des financements structurés. Ensuite, on a Rachel Neuenschwander, qui est responsable de la transformation citoyenne de la BFI. Et enfin, Marie Evenot, responsable marketing. Marie, à la fin de cette présentation, elle vous parlera de vous, ou en tout cas des entreprises en général, en vous partageant le baromètre RSE, la Banque Postale, des PME et des ETI, pour qu'on voit finalement si tout ce dont on parle, tout ce reporting extra-financier, il a des impacts. On peut en mesurer les impacts en matière de positionnement RSE des entreprises aujourd'hui en France. Alors, pour commencer, je me tourne tout de suite vers Rosaine. Hop. Je me tourne vers Rosaine. Axel, je te laisse venir pour débloquer le PC. Rosaine, première question, les normes aujourd'hui en matière de reporting extra-financier, comment ça se passe? Quelles sont les pratiques? Quelles sont les obligations?
Bonjour à tous. Est-ce que vous je comprends que vous m'entendez bien, donc s'il y a un problème, n'hésitez pas à lever les bras. Donc, le reporting extra-financier, il se traduit effectivement en France en grande partie par la déclaration de performance extra-financière qui va devenir un rapport de durabilité en application aux recommandations récentes faites par la Commission européenne en vue d'harmoniser et d'élargir les pratiques. Mais avant de tomber dans les détails techniques et les sigles et les jargons, je voudrais juste qu'on prenne un petit peu de recul parce que c'est vraiment important de toujours le faire et de redonner du sens à tout ça. Et donc, je vais vous emmener évidemment sur les territoires de la prise de conscience du changement climatique, hein, avec les accords de Paris, signés en 2015, où 195 pays se sont engagés à tenir le 1,5 degré maximum d'augmentation de la température par rapport au niveau pré-industriel. Et puis, à la prise de conscience hein, qui traverse les entreprises depuis quand même les années 2000, en particulier les grandes entreprises, de leur impact sociétal. Alors, parfois un peu sous le stimuli des pouvoirs publics, mais il y a quand même une vraie prise de conscience qui s'est faite. Et donc, concrètement, on est à partir des années 2000, donc c'était d'abord un reporting RSE qui est devenu une déclaration de performance extra-financière, une DPEF. Elles ont commencé à raconter, partant de leur business model, regardant les risques auxquels elles étaient confrontées, comment finalement réduire les impacts qu'elles pouvaient avoir. Et donc cette obligation de transparence, elles l'ont faite de mieux en mieux, parfois aussi parce que l'actualité les y poussait. Hein, je pense évidemment à toutes certains des grands accidents écologiques dans le secteur minier en Amérique du Sud, l'effondrement au Bangladesh du Rana Plaza. Bref, des consommateurs de plus en plus exigeants, des applications UCA, les entreprises sont devenues vraiment plus alertes sur cet exercice et en ont même fait parfois des opportunités business grâce. Par exemple, des opportunités business, pardon. Je peux citer L'Aigle et ses entreprises, sa ligne de seconde main, le Refill de L'Oréal, Decathlon qui fait du service de location de matériel, et il y en aurait encore beaucoup d'autres, Darty, le service de maintenance. Voilà, tout ça pour dire du reporting extra-financier, mais pas stratosphérique. Ça veut dire des choses en termes de business model et de plan d'action.
Merci Rosane. Alors, l'Union européenne va franchir un nouveau pas en la matière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Donc, un nouveau pas, un grand pas même. Il y avait déjà eu des choses en 2014, mais finalement, en France, on en avait peu parlé parce qu'on avait déjà ces publications dans le rapport de gestion. On était déjà avec des OTI, donc des organismes tiers de confiance qui validaient la pertinence et la véracité de ce qui était dans les publications, même si c'était un niveau moins par rapport aux audits financiers. Mais là, il y a effectivement, avec le Green Deal, et là encore, dézoomons un peu avant de tomber dans la technique du reporting, il y a ce grading et cette affirmation très forte de l'Union européenne d'ambition, de feuille de route et de moyens associés, pas seulement sur le climat, mais aussi la biodiversité, des modèles de boucles circulaires par rapport à l'utilisation de ressources, réduire les pollutions. Et donc, encore une fois, une ambition affirmée seule, mais en tout cas fortement, qui entraîne évidemment un besoin de piloter la mise en œuvre et donc des exigences de transparence de la part de tous les acteurs, que ce soit les gouvernements qui doivent même à leur niveau prendre des mesures et se piloter, les entreprises qui doivent évidemment faire leur part et les institutions financières qui doivent réorienter leurs flux. Et donc en termes de reporting, ça se traduit par différentes choses, dont les premiers ayant fait le pas, ce sont les institutions financières avec donc davantage d'explicitation par rapport à leur politique d'investissement responsable, donc c'est la SFDR. Tous les acteurs confondus classent maintenant leur activité, leur flux d'affaires, leurs investissements, leur bilan en termes de finalement de qu'est-ce que je fais de durable et qu'est-ce que je fais de moins durable. Donc c'est ce qu'on appelle la taxonomie. Et puis il y a la fameuse CSRD qui arrive à grands pas et qui va obliger à raisonner différemment puisque il faut enfin même si c'est pas écrit comme ça, il faut vraiment repartir de la stratégie de l'entreprise. De son écosystème et de le traduire de manière extrêmement concrète en plan d'action et en indicateur à piloter. Et sachant qu'on va aussi sur une autre dimension qui n'est plus uniquement comment je peux réduire mes impacts, mais comment je suis moi concernée par tout ça, quelle dimension financière, quel impact financier ça va avoir. Et là encore, importance de remettre tout ça en cohérence par rapport à business model, stratégie, tout mon écosystème, tous les collaborateurs, qu'ils soient directs ou indirects. Et donc, quels des indicateurs que je vais pouvoir suivre dans le temps et donner des preuves.
Merci, Rosane. Je me tourne maintenant vers Frédéric. Frédéric, tu es en relation d'affaires avec beaucoup de fonds d'investissement, d'acteurs financiers sur la place aujourd'hui. Est-ce que tu vois un impact de ce reporting extra-financier dans la valorisation pour les investisseurs ?
Alors, effectivement, c'est fondamental. Aujourd'hui, quand on parle de financement, on parle à la fois des banques, mais aussi des fonds de dette qui sont de plus en plus présents. Les fonds de dette augmentent la liquidité, permettent également d'avoir de la maturité, donc ils sont extrêmement clés aujourd'hui pour que les entreprises puissent se développer par acquisition ou par investissement, notamment pour faire des investissements qui accompagnent le développement durable. Alors tous ces investisseurs sont soumis à des réglementations extrêmement fortes qui se sont développées de manière très rapide les dernières années. Donc pour eux, ce reporting extra-financier est d'une très grande utilité, d'abord pour répondre aux exigences de la réglementation, et ensuite, lorsqu'ils vont choisir les entreprises qu'ils vont accompagner, bien évidemment, ce reporting va leur permettre de mieux se diriger, de mieux comprendre comment accompagner les entreprises et de les sélectionner par rapport à la prise de conscience du management des enjeux et des actions qui vont être mises en place par la société. Donc globalement, plus ce reporting va être bien fait et fourni, plus les fonds seront nombreux à vouloir accompagner la société. Et quelque part, de manière prosaïque, ça va augmenter la concurrence, donc aussi bien pour les financements que pour la valorisation d'entreprise, ça va être générateur de valeur pour la société qui va bénéficier de coûts plus attractifs ou d'une valorisation plus importante. Donc, ce mouvement ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, les investisseurs sont très axés sur le triptyque maintenant, un risque, rentabilité, durabilité, tout comme les banques. Le fameux couple risque-rentabilité a tendance un petit peu à s'effacer par rapport au concept de durabilité qui est une vraie réalité. Alors, ce reporting a également un intérêt dans le cadre du suivi, c'est-à-dire qu'une fois que l'opération est faite, les fonds vont continuer à suivre les entreprises et ce reporting va leur permettre d'évaluer la réalité de la mise en œuvre des politiques et ensuite d'accompagner au mieux les entreprises, de comprendre au mieux leur stratégie et éventuellement de porter des fonds complémentaires pour accompagner la mise quelque part en conformité avec les enjeux climatiques, sociaux et de gouvernance, bien évidemment. Voilà, donc c'est un outil qui est extrêmement précieux pour la lecture des performances de l'entreprise, aussi bien pour les fonds que pour les banques, et donc un facteur d'amélioration de quelque part de leurs conditions financières globalement, donc une valorisation quelque part qui est réelle, en plus des KPI RSE.
Merci. Alors après les investisseurs, les prêteurs, on associe souvent le reporting extra-financier pour les banques au crédit à impact. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette solution de financement ?
Alors, le crédit impact, c'est très simple. C'est un crédit qui, à la base, est classique. C'est-à-dire que dans son objet, il n'a pas d'objet vert comme peuvent exister d'autres prêts aujourd'hui. C'est un prêt d'accompagnement qui peut être fait pour tout type de choses, de l'investissement, de la croissance, même un rachat de société. Donc, en termes d'objet, ça peut être un prêt qui est assez large. Alors, la spécificité, c'est que pour accompagner le développement de la société sur les aspects extra-financiers, le prêt est assorti de critères de performance, 2 ou 3 critères, qui sont négociés avec le management, dont le respect peut aboutir soit à une neutralité, si quelque part la société est dans son plan de développement, ni plus ni moins, à un bonus, si jamais certains critères sont atteints, donc des critères bien sûr ESG, ou alors un malus, si ces critères ne sont pas atteints. Alors dans les médias, je n'ai pas encore vu de malus s'appliquer, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que les sociétés mettent en place ces critères, les suivent, les respectent, voire les dépassent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Alors, ce qui est important et ce qui est clé dans le rôle des banques, c'est que la mise en place de ces critères est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des sociétés, des managers qui ne sont pas nécessairement complètement au fait de la partie ESG, des impacts, et donc il faut les accompagner. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Alors, c'est une expertise qu'on a développée au niveau de la Banque Postale. On a un hub RSE qui est spécialisé là-dedans et pour discuter avec les managers, pour les aider à mettre en place les critères, bien sûr en s'appuyant sur les reportings. Donc, on revient au reporting. Plus le reporting est complet, plus on pourra aider, bien évidemment, les managers à mettre en place. Ce qui est clé là-dedans, c'est qu'on est dans une posture d'accompagnement. C'est-à-dire que les enjeux, tout le monde les connaît, l'urgence, tout le monde la connaît. En revanche, le poids pour les sociétés, notamment industrielles, la vitesse quelque part d'évolution, doit être prise en compte. Donc on n'a pas une approche trop dogmatique en disant pas de critères, pas de prêts. On a vraiment une approche d'accompagnement. On propose systématiquement une discussion sur les enjeux RSE, systématiquement une discussion sur les KPI. On présente systématiquement le mécanisme. En revanche, la mise en place est négociée avec le management. Ça peut être tout de suite, ça peut être quelques mois après le closing, ça peut être quelque part au coup suivant, quand le management aura lui aussi mûri dans sa société toutes les... on va dire la stratégie et le reporting, c'est quand même extrêmement clé, pour mettre en place ce type de financement.
Merci Frédéric. Alors une fois qu'on a dit tout ça, l'intérêt pour les entreprises et l'intérêt pour la banque, quel est-il ?
Alors l'intérêt, c'est une meilleure communication déjà à la base. Alors j'ai vu peu de managers qui faisaient ça uniquement pour des aspects financiers. Alors, bien évidemment, si on atteint les critères, comme je vous l'ai dit, il y a une bonification au taux, donc les sociétés en bénéficient, mais clairement, ce n'est pas clé. Vraiment, le cœur du sujet, c'est la communication. Il y a quelques années, on ne se demandait pas pourquoi on avait des états financiers et pourquoi les banques regardaient les états financiers. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si les états RSE, c'est positif ou pas, et pourquoi les gens les regardent. Ce sera la même chose, à mon avis, dans quelques années. Donc, tout simplement, c'est devenu un instrument de gestion pour les sociétés, d'évaluation de crédit, donc de communication beaucoup plus fluide sur ces aspects-là. Donc, quelque part, c'est au bénéfice de toutes les parties.
Est-ce que c'est un effet de mode, le crédit à impact, finalement ?
Non, là-dessus, je ne pense pas. On a une tendance qui est très, très rapide. Il y a 3 ans, j'en voyais presque pas. L'an dernier, à peu près 50% de notre production était assortie de KPI RSE. Cette année, on est au-delà de 60%. Donc, c'est vraiment une évolution qui est extrêmement rapide. comme je l'ai dit, on est dans l'accompagnement. Le but n'est pas de forcer les sociétés à aller trop vite et les mettre elles-mêmes en défaut, parce que l'idée, c'est de les accompagner sans que ça devienne quelque chose de rébarbatif. Sinon, je pense qu'on aura tous échoué dans l'évolution. Donc l'idée est bien de les accompagner, mais en tout cas, la tendance est là, elle est forte et elle n'est pas prête à s'arrêter, à mon sens.
Merci Frédéric. Je me tourne maintenant vers Rachel, qui a une bonne vision des relations entre les entreprises et les institutions financières. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises fournissent de la data extra-financière à leurs banques? Si elles le font, comment est-ce qu'elles le font? Et puis sinon, comment s'y préparer, Rachel?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, à date, en fait, les informations extra-financières ne font pas partie des données obligatoirement attendues par les banques. Si les banques demandent aux entreprises de fournir la data, c'est plutôt de façon volontaire. Donc, ça a commencé au milieu des années 2000 avec les principes de l'Équateur. Donc, les banques qui volontairement ont adhéré à ces principes ont commencé à s'intéresser à l'impact social et environnemental, l'impact sur les communautés, des gros projets. Donc, on parle là plutôt des projets d'infrastructure supérieurs à 10 millions d'euros. Donc ça, c'est la donnée la plus ancienne, en gros, à laquelle les banques s'intéressaient. Aujourd'hui, elles le font de façon de plus en plus systématique. Hein. La banquière ou le banquier va aller parler de ces sujets-là avec son client, donc avec un niveau de maturité qui peut évoluer. Alors bien sûr, dans le cas d'un crédit impact, on va parler de la mise en place d'indicateurs. Mais en fait, ça va bien au-delà des produits de finances durables. En fait, les banques aujourd'hui abordent ces sujets-là à la fois pour piloter leur propre risque, le risque lié à leur bilan, à leurs expositions auprès de ces entreprises, pour aussi mieux connaître leurs clients, pour élargir le spectre d'échange et donc avoir une relation commerciale plus profonde, plus large, et puis bien sûr pour accompagner leurs clients dans leur transition en leur proposant des solutions de financement. Ça, c'est évident. Ce qu'il faut avoir en tête et de façon très claire, c'est que cette collecte d'informations, elle va s'accélérer. En juillet 2023, la Banque de France a été officiellement chargée par le ministère de l'Économie de développer une notation climat des entreprises. Donc, pour les chefs d'entreprise ou ceux qui travaillent au sein de plutôt côté financier des entreprises savent que chaque entreprise a une cotation Banque de France. Eh bien, en fait, la Banque de France est en train de développer une notation climat. Donc, en 2023, c'est 500 entreprises test qui sont concernées. Progressivement, ça va être déployé sur les grandes entreprises. Mais les ETI et les PME seront également très, très vite concernées. Donc, la Banque de France va s'intéresser plutôt au côté climatique, hein, comment les entreprises déjà ont identifié, ont mesuré, gèrent et pilotent leurs risques climatiques. Mais les banques, de façon, je dirais, individuelle aujourd'hui, le font également. Hein. On a pu constater que la plupart des banques de la place aujourd'hui ont mis en place un questionnaire RSE. Et donc, c'est un outil pour entamer cette discussion. Donc, on va parler du bilan carbone, on va parler de l'indice d'égalité professionnelle, de la mise en place ou non d'une démarche de labellisation, d'économie circulaire, gestion des déchets, de l'eau. Donc, c'est ce débat et cet échange d'informations, il se met en place et il se déploie progressivement.
Alors, Rachel, tu nous as parlé du reporting extra-financier qui va de l'entreprise vers la banque. Et on le voit, ça se développe. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que toi, tu constates aujourd'hui que les entreprises demandent à leur banque de montrer patte blanche en matière de performance extra-financière?
Alors, oui, c'est très intéressant. On le voit donc au niveau aujourd'hui, côté secteur privé, je dirais, plutôt côté grandes entreprises, dans le cadre des appels d'offres. Donc, dans le cadre des appels d'offres, aujourd'hui, on a des critères RSE pour les acteurs financiers qui peuvent peser jusqu'à 20% de la note finale. Donc, c'est extrêmement important de savoir déjà y répondre. Donc, ça oblige aussi les banques à avoir ces éléments-là, ces éléments de transparence, se poser aussi des questions, s'interroger. Alors, évidemment, sur les sujets assez classiques, du type carbone ou égalité professionnelle, mais on peut avoir des appels d'offres plus précis où l'entreprise en question va s'interroger plus précisément sur ce qui est matériel pour le marché en question. Par exemple, si on est sur un appel d'offres lié, je ne sais pas, à la monétique, aux moyens de paiement, tout le sujet du numérique responsable ou de là où sont situés les centres d'appel peuvent être des éléments auxquels les entreprises sont sensibles. Donc ça, c'est pour la sphère privée. Pour la sphère publique, ça fait à peu près 3 ans que les collectivités locales sont très, très enclines à mettre aussi en place ce genre de questionnaire. Ça peut aller jusqu'à 50% de la note pour les collectivités locales. Elles sont très attentives aux impacts climatiques que les financements bancaires ont, et notamment sur l'accompagnement ou la sortie du financement des énergies fossiles. On parlait d'opportunités. Nous, à la Banque Postale, il faut avoir en tête que sur 2022 et sur 2023, on a emporté plusieurs marchés liés à l'amélioration de notre note globale grâce à notre performance extra-financière, alors qu'on avait des taux supérieurs à nos confrères de la place. Donc ça veut dire aussi que les acteurs publics et privés sont prêts à payer plus cher parce que finalement, avoir une performance extra-financière peut générer un surcoût financier. Il faut aussi l'avoir en tête. Donc voilà, c'est important de savoir que c'est réciproque. Et j'incite d'ailleurs toutes les entreprises qui sont dans la salle à commencer à questionner leurs partenaires bancaires sur ces sujets extra-financiers en retour.
Alors, je reviens maintenant du côté des prêteurs. Cette data extra-financière qu'on collecte, est-ce que aujourd'hui ou demain, ça sera un outil d'analyse, de lecture du risque de contrepartie et in fine, est-ce que ça va rentrer en ligne de compte dans les processus d'octroi, dans les processus de prise de décision pour accorder ou pas un crédit?
Oui. Alors, sur les principes de l'équateur que j'évoquais tout à l'heure, c'est déjà le cas. En gros, si l'entreprise ne montre pas un niveau d'engagement, d'action pour réduire et corriger ses impacts, la banque peut refuser de mettre en place un financement parce qu'annuellement, elle va rendre compte publiquement sur le site des principes de l'équateur des financements qu'elle a mis en place. Donc, elle a tout intérêt à faire en sorte que les entreprises respectent bien les critères ESG concernés. Par ailleurs, en fait, les banques, dans le cadre du Green Deal, ont un ratio qui les concerne tout particulièrement, qui s'appelle le Green Asset Ratio, qui en fait va refléter, on va le publier pour la première fois en 2024 au titre de notre bilan au 31-12-2023, qui va refléter la part, donc sur les actifs éligibles, mais je ne veux pas entrer dans le détail parce que si j'ai même pas mes notes, je pense que j'y arriverai pas. En tout cas, le Green Asset Ratio, c'est de dire quelle est la part des actifs financés par la banque qui sont verts au regard du bilan global. Donc ça, évidemment, il va y avoir un enjeu de communication, hein, évident. Ce qu'il faut avoir en tête pour les entreprises, ça veut dire que en fait, les banques sont, de par ce ratio, incitées à vraiment aller financer des projets et des entreprises dont le chiffre d'affaires est aligné avec la taxonomie verte européenne. Donc ça ne va pas faire partie du processus d'octroi en tant que tel. Les banques ne vont pas s'arrêter pour autant de financer des projets qui ne seraient pas alignés avec la taxonomie. En revanche, elles seront beaucoup plus enclines à le faire dans des bonnes conditions si ces actifs-là sont alignés. Donc, une entreprise, parce qu'elle est soumise ou non à la CSRD, si elle a commencé à se pencher sur l'alignement de ses projets, de ses investissements, CAPEX, OPEX à la taxonomie, elle va forcément avoir un argument positif à présenter à son partenaire bancaire. Donc, le Green Asset Ratio aujourd'hui, il va concerner les entreprises qui sont soumises à la CSRD. Donc, ça, c'est le ratio obligatoire. Il y a aussi un ratio volontaire, et ce ratio volontaire que le régulateur incite fortement les acteurs de la place à publier également, là concerne l'ensemble du secteur privé et l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est, je dirais, le cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les banques, principe de l'équateur et Green Asset Ratio. Il y a aussi des initiatives personnelles. Donc là, je vais partager l'initiative de la Banque Postale, qui est en train de déployer une notation qui s'appelle l'indice d'impact global, qui a pour vocation, comme le disait très bien Frédéric tout à l'heure, de rajouter un troisième pilier à l'analyse rendement-risque, donc le pilier impact. Et donc la Banque Postale va s'attacher à mesurer l'impact sur trois piliers, donc le pilier environnemental évidemment, le pilier territorial qui est très important dans l'ancrage et l'ADN postal de la Banque Postale, et puis aussi le sujet de l'inclusion ou de l'impact social des projets ou des entreprises qu'elle finance. Donc ce déploiement, il se fait progressivement, de façon tout à fait adaptée au type de projet ou de métier que la Banque Postale finance. Et donc cette IIG, comme on l'appelle, il va venir finalement impacter la marge. Alors, pas en 2023 et peut-être pas en 2024, mais le but, c'est qu'on incite financièrement les entreprises à aller vers des projets à impact le plus positif possible, avec peut-être aussi une modulation d'allocation des fonds propres en interne sur les projets pour justement aller vers un impact de plus en plus positif. Et puis, je te laisse la parole, Laurent.
Je t'en prie, vas-y.
Je dirais que l'important ici, on parle évidemment du reporting, mais comme l'a dit Rosane, ce n'est pas stratosphérique. L'entreprise, elle fait partie d'un écosystème. La banque, c'est une de ses contreparties dans cet écosystème. Et donc, je dirais qu'en fait, il faut vraiment se mettre en marche. Il est possible que l'absence de reporting mène à la fermeture du robinet de financement. Voilà, il y a un autre robinet qui est celui de l'eau, qui est celui des ressources. Et donc, je dirais que plus globalement, il faut vraiment que les entreprises se saisissent de ces sujets de durabilité pour ne pas avoir à se poser la question de quelles ressources va venir à manquer en premier. Voilà, je te laisse la parole.
Merci Rachel. Alors je me tourne maintenant vers Marie. Marie, toi tu as une bonne vision de marché des PME et des ETI en France et tu vas nous partager ta lecture justement de cette accélération du positionnement RSE des PME et des ETI au travers du baromètre de la Banque Postale.
Exactement. Je vais vous inviter à découvrir les tendances RSE engagées de environ 200 entreprises. Ces conclusions issues des questionnaires du questionnaire RSE qui a été construit par la Banque Postale et qui se déclinait en 11 questions. Et ces questionnaires ont été administrés fin 2022 auprès de dirigeants d'entreprises, clients et prospects de la banque. En termes de panel, 60% des répondants étaient des PME et 40% des ETI. Alors, les résultats du baromètre RSE confirment un passage indéniable des entreprises à la transition. En revanche, on observe qu'il y a des absences d'engagement dans certains domaines et surtout des différences de maturité selon la taille de l'entreprise. Les avancées, donc aujourd'hui, quelles sont les thématiques sur lesquelles les entreprises sont les plus avancées? Les entreprises, en fait, franchissent leur première étape vers la transition avec le calcul de leur empreinte carbone. Et en effet, 40% des entreprises ont réalisé un bilan carbone ou un audit énergétique. Je rappelle que le bilan carbone doit être réalisé pour les entreprises de plus de 500 salariés ou 100 millions de chiffre d'affaires et aussi pour les entreprises qui ont bénéficié du plan France Relance qui ont l'obligation de faire un bilan simplifié avant fin 2023. Et à ce titre, la Banque Postale peut aider les dirigeants d'entreprise à gérer leur impact carbone parce qu'on s'est associé avec une green tech française, Carbo, qui est spécialisée dans l'empreinte carbone et qui accompagne les entreprises dans l'estimation et la réduction des gaz à effet de serre. La transition énergétique, écologique énergétique, ne va pas sans la transformation d'un modèle. Cette transformation peut générer des investissements importants. On peut voir que 80% des entreprises répondantes ont ou vont réaliser des investissements qui ont pour but de réduire leur impact environnemental. Et là aussi, la Banque Postale accompagne les chefs d'entreprise dans leurs projets qui visent à réduire ou améliorer la performance environnementale. Et là, il y a deux courants de financement responsable. Le premier, qui effectivement Frédéric a décrit tout à l'heure, le crédit impact, qui va financer tout type de projet, mais dont les conditions seront indexées, les conditions de prêt seront indexées à la performance RSE de l'entreprise. Et le taux variera, et Frédéric l'a expliqué, en fonction justement de l'atteinte des objectifs extra-financiers. Et il y a une autre solution de financement qui est fléchée et qui respecte les critères de la taxonomie de l'Union européenne et qui va financer directement des projets de transition écologique et énergétique tels que l'immobilier responsable, la mobilité durable ou les actifs technologiques verts. Et ce prêt vert peut être refinancé via des obligations vertes émises par la banque qui respectent les critères de la banque, mais aussi les exigences des investisseurs institutionnels. Deux entreprises sur cinq ont intégré des critères environnementaux ou sociaux dans la sélection de leurs fournisseurs. Donc c'est vrai que la réglementation incite de plus en plus à intégrer des critères ESG dans les appels d'offres. Ah oui, alors c'est 59% des entreprises ont mis en place des démarches d'économie circulaire. En termes de certification, de label, 39% des sociétés ont mis en place un système de notation, de label ou autres distinctions pour valoriser leur démarche RSE. Et c'est vrai que la norme ISO est le dispositif le plus présent dans les labels.
Alors Marie, peut-être pour terminer, laisser un peu de place aux questions-réponses. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui manque encore un peu aujourd'hui à l'appel et ce qui doit de ton point de vue, en tout cas ce qu'on constate comme étant encore un axe de développement?
Oui, on en parlait tout à l'heure. On observe très clairement que les ETI, et notamment les réponses aux questionnaires, sont bien plus avancées que les PME. Alors, il est clair que les obligations réglementaires ont un réel impact sur les pratiques RSE des entreprises. Et par exemple, on parlait d'outils de mesure tout à l'heure. Pour faire une comparaison, 83% des ETI ont mis en place des outils de mesure, alors que 50% des PME l'ont fait. Sur le volet de la gouvernance, une entreprise sur deux n'a pas intégré la gouvernance RSE au sein de leur structure ou au sein d'une direction. Et par ailleurs, un quart des sociétés n'a pris aucun engagement interne au public en matière de RSE. Sur le volet social, 57% des entreprises n'ont pas calculé le score égalité homme-femme. Et pour rappel, ce score doit être calculé et publié pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Ce qui va être important et sur le volet social et de façon générale, la RSE s'adresse aussi aux collaborateurs. Donc on parlait d'opportunités auprès des banques, mais elle s'adresse aussi et surtout dans un contexte où aujourd'hui il est difficile de recruter, sourcer, fidéliser les talents. C'est vraiment un facteur clé et différenciant sur le marché du travail. Les dirigeants d'entreprise vont être amenés aussi de plus en plus à s'intéresser au bien-être de ces salariés de travailler sur l'amélioration du confort financier. Et pour vous donner un exemple, en partenariat avec Sofiap, une des filiales du groupe La Poste, L'entreprise peut accompagner ses salariés, par exemple, dans l'acquisition de sa résidence principale à des conditions privilégiées, puisque une partie du coût de crédit peut être pris en charge par l'employeur. Et enfin, donc, sur l'entreprise à mission, la raison d'être, 5% seulement des entreprises ont intégré une raison d'être dans leur statut ou devenue entreprise à mission. Alors, ce qu'on peut retenir du baromètre RSE, c'est effectivement les chefs d'entreprise sont sensibilisés. En revanche, on s'aperçoit que les plans de transformation se font très rares, les plans globaux se font très rares. Et pourtant, les PME et ETI françaises, donc soumises ou pas à la direction, à la directive CSRD, doivent se saisir vraiment de ces sujets et ces enjeux parce qu'elles représentent 30% de l'empreinte carbone de la France. Donc j'espère que ces résultats et puis notre présentation en général puisse vous inciter davantage dans vos démarches RSE de dirigeants d'entreprise.
Merci à Marie, merci à toutes et à tous pour votre attention. Vous l'aurez compris, le reporting extra-financier, ce n'est pas l'affaire des entreprises d'un côté puis des banques de l'autre, avec des questionnaires à rallonge pour vous embêter. C'est un défi commun, des enjeux énormes, évidemment. Rachel l'a bien rappelé, avant tout pour la planète. Mais aussi des opportunités, on l'a vu, des opportunités commerciales, des opportunités de mieux valoriser son entreprise dans les opérations de transmission, les opérations financières également. On en a largement parlé avec le crédit à impact. Donc voilà, un véritable enjeu commun. Il nous reste quelques minutes, donc on sera très heureux de répondre à vos questions. On a une première question au fond de la salle.
Bonjour à tous, Marjorie Hinault, directrice du développement de la SOFIAP. Donc merci pour cette belle présentation. C'est très intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit dans les rencontres que l'on a avec les différentes entreprises, le reporting extra-financier porte essentiellement sur le E et pas sur le S. Et c'est très important parce que les entreprises ont une responsabilité sociétale très importante, encore plus aujourd'hui dans le contexte que l'on traverse, vis-à-vis de leurs salariés. On parlait de fidélisation, oui, bien sûr, attractivité, évidemment. Mais si l'on veut atteindre des objectifs qui sont climatiques, environnementaux, il faut engager. Et engager, c'est engager les salariés. Comment ? En s'intéressant à eux. Parce qu'ils ont aussi des problématiques. Une qui est une problématique d'inclusion, qui répond à un besoin primaire, c'est le logement. Oui, il faut se nourrir, mais il faut se loger. Et comment, moi, employeur, je peux m'assurer que mon salarié est bien logé, qu'il peut télétravailler dans de bonnes conditions ? Comment je peux faire pour être sûr qu'il n'est pas en difficulté ? Et en effet, le prêteur, alors en l'occurrence la Banque Postale, via la SOFIAP, peut proposer aux employeurs de participer au financement du logement du salarié, ce qui est un véritable plus en termes d'engagement, en termes d'avantages et en termes de responsabilité sociétale. Merci.
Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ?
Bonjour, vous avez parlé de critères pour le prêt à impact. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des critères que vous utilisez en cas de prêt à impact ?
Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Les critères sont adaptés à l'entreprise, hein, donc c'est assez varié. On a aussi bien des critères, on parlait justement de l'aspect social. Bien évidemment, il y a des critères à caractère social qui peuvent être des critères de parité, de gouvernance, qui peuvent être des critères de taux de CDI, par exemple, pour s'assurer de la pérennité de l'emploi, qui peuvent être également des critères liés, selon les secteurs, à des sujets d'accidentologie, par exemple. Hein, donc tout ça, sur la partie sociale, est pris en compte. Ensuite, on a des critères plus environnementaux sur, encore une fois, ça dépend de l'activité, hein, sur des taux d'utilisation de flotte, le taux de verdissement de certaines flottes dans le transport, par exemple, ou dans le tourisme. On peut également avoir tout simplement des bilans carbone ou des notes RSE, des dénotations qui sont utilisées dans ces ratios-là. Donc c'est assez varié, ça touche pas mal d'aspects et ça dépend vraiment de l'activité précise de l'entreprise et de son état de capacité de reporting sur ces différents sujets.
Est-ce que vous considérerez à l'avenir de faire des ratios d'aliments taxonomiques et avoir des critères taxonomiques pour ces prêts à impact ou prêts verts, du coup, comme vous avez parlé.
Alors, je vais peut-être laisser la parole à Rachel sur le sujet.
En l'état, je pense pas. Pour le moment, je pense pas que ce soit d'actualité. Il y a un sujet de maturité sur la taxonomie qui est encore à développer. D'ailleurs, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, c'est un texte qui est fait à la base pour le secteur économique, mais sur lequel s'appuient les banques. Et l'idée, c'est déjà que, je pense, le secteur se mobilise sur l'identification de l'alignement, parce qu'il y a des critères à la fois techniques, mais aussi des critères sociaux. Ça balaye très large. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là pour les crédits impact en termes de KPI. Non, je pense pas.
Mais peut-être pour bien clarifier les choses, je partage complètement le point de Rachel sur le crédit impact. La taxo ne va pas encore être un outil. En revanche, et Marie l'a très bien dit tout à l'heure, hein, il faut bien comprendre que le prêt vert de la Banque Postale, il est complètement aligné avec la taxonomie en l'état actuel des choses. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire en sorte que les prêts qu'on octroie et qu'on qualifie comme verts, ils ne sont pas verts parce que la banque l'a décidé. Ils sont verts parce qu'ils sont alignés avec la taxo et que derrière, on peut les refinancer par des émissions obligataires vertes. Donc, on a un chaînage parfait entre des investisseurs institutionnels qui sont en quête d'actifs verts qui sont robustes et puis l'économie réelle des PME et des ETI en France. Donc ça fonctionne aujourd'hui dans du financement qui est fléché. On va vraiment s'intéresser à l'actif qu'on finance. Et pour le crédit à impact, on est encore aujourd'hui plutôt sur des critères de performance de l'entreprise en tant que telle, indépendamment de l'objet du financement.
Bonjour, vous nous avez parlé des principes de l'équateur. Comment vous l'intégrez à votre processus d'octroi de crédit? Parce que vous l'avez évoqué au moment de l'octroi de crédit.
Oui, en fait, on a une grille hein, d'analyse que le chargé d'affaires va compléter en lien avec son client. Donc, il va aller balayer les impacts environnementaux, sociaux, c'est plutôt les principes de l'équateur, c'est quand même quelque chose qui s'applique plutôt de façon pertinente hors OCDE, je dirais, notamment parce qu'on a c'est un principe qui s'attache au respect des communautés, au respect social localement. Donc c'est vrai que ces sujets-là sont plutôt on n'est pas trop concerné en France. Encore que on peut se poser des questions, mais donc c'est plutôt une grille d'analyse qui va passer tout en revue et cette grille, elle est en train de s'enrichir sur les projets avec l'alignement à la taxonomie.
Voilà. Avec un sujet de fléchage peut-être aussi.
Oui. Ah oui, parce qu'après il faut qu'on puisse s'assurer qu'on coche toutes les bonnes cases pour valider le critère vert du projet en question, si on veut pouvoir le refinancer par la suite.
Merci.
En prie.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'aurais voulu savoir si les cotations, notations ou le profil des clients de la Banque Postale vert RSE peut être amené à varier dans le temps en fonction de la satisfaction ou du respect des critères environnementaux, sociaux, gouvernance de vos clients. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une sorte de waiver ou de demande de remboursement anticipé des prêts verts, si jamais il y a une détérioration de la qualité du client en termes RSE au cours du temps?
Très bonne question. Elle est plurielle, cette question. Donc peut-être que je ne sais pas qui veut la prendre.
Moi, je ne pourrais pas répondre sur les prêts verts.
Oui,
je répondrai sur les prêts impact. Sur les prêts impact, encore une fois, c'est une démarche d'accompagnement, de réflexion. On a des KPI qui sont là. Ça ne peut pas aboutir à une demande de remboursement anticipé, parce que là, pour le coup, on met vraiment une entreprise en difficulté. Donc ça, je pense que ce serait pas souhaitable. Et dans l'évolution de ces financements-là, on souhaite que ces financements-là continue à perdurer, se dissémine dans l'économie, mais absolument pas en faire un outil qui serait complètement à contre-emploi, vraiment de mise en difficulté des sociétés. Au niveau de notation, on n'a pas de notation, en tout cas sur les prêts impact, on n'a pas de notation de la société. C'est une évaluation crédit qui aboutit à quelque part une vision qualitative de la société. Le suivi est fait via les KPI. Aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. À la base, c'est un prêt classique hein, qui est soumis à la loi, tout ce qui est réglementation bancaire. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche-là pour le crédit impact. Après, pour les prêts verts, je ne sais pas s'il y a des dispositifs particuliers.
Alors, je dirais que le filtre se fait plutôt à l'entrée en relation. C'est-à-dire qu'on va déjà s'assurer que l'entreprise en question respecte notre charte de financement responsable. Et donc, on a un certain nombre aussi de politiques sectorielles en lien avec notre trajectoire de décarbonation. Enfin, tout ça est très lié. Donc, on va faire en sorte d'entrer en relation avec les entreprises qui... soit ont commencé à transitionner, soit en tout cas, enfin, et de toute façon, on respecte notre charte de financement responsable. On ne va pas le prêt vert, entre guillemets, on en contrôle le côté vert à la mise en place du financement. Donc, une fois que les critères sont validés, le financement est prêt, on ne va pas après en demander un remboursement. En revanche, comme on flèche ça pour le refinancer au niveau obligataire, un engagement qu'on prend au sein de notre cadre d'émission obligataire qui vient d'ailleurs d'être mis à jour et publié cette semaine, on s'engage à suivre les controverses sur les clients et donc à les retirer du pool de prêts refinancés en cas de controverse majeure d'un des prêts qui aurait été identifié comme vert initialement, mais dont l'entreprise aura un comportement, non aligné avec les principes de notre charte.
Alors donc c'est plus, la conséquence serait plus en matière d'inclusion dans le pool de refinancement.
Exactement.
Que d'arrêt total du financement.
Totalement. D'accord. Totalement.
Merci beaucoup.
Merci, je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. Merci pour votre attention et bonne journée.